Turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 5 and verse 1.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 5 et au verset 1. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre sujet est comment accéder à Dieu. Et les paroles de ce premier verset de Romains 5 présentent la doctrine de la justification par la foi uniquement. Et je suis sûre que la plupart de nos amis présents dans cette église ce soir ont entendu parler de la doctrine de la justification par la foi seule. Et j'espère que vous comprenez sa signification ou que vous comprendrez la justification par la foi, ce que cela signifie, le cœur même de la foi chrétienne, le fondement du salut. Et il en a toujours été ainsi, la justification, justifiée par Dieu, c'est-à-dire déclarée acceptable devant Dieu, déclarée juste devant Dieu et droit devant Dieu. Qui peut être déclaré juste devant Dieu? Personne. Personne. C'est là ce que la parole de Dieu nous dit. Tous sont privés de la gloire de Dieu, si loin de sa justice, de ses critères moraux. Nous sommes membres d'une race humaine qui a chuté loin de Dieu. Qui peut être justifié et accepté devant Dieu? Ou être déclaré juste, étant donc justifié par la foi en Christ en particulier, en nous confiant en lui, il y a un chemin par lequel nous pouvons être déclarés justes par Dieu, parce que ainsi nous serons vus par Dieu comme n'ayant jamais, jamais péché. Nous sommes devant Dieu comme si nous avions mérité la récompense du juste. Comment ceci se peut-il? Ceci nous est présenté dans l'Écriture comme étant le seul chemin pour être réconcilié avec Dieu, que Dieu librement nous voit comme si nous n'avions pas péché, comme si nous méritions sa bénédiction, sa récompense céleste. Ce sont des paroles que nous devons comprendre. C'est l'enseignement de toute la Bible, depuis le tout début jusqu'à la fin, que l'homme et la femme doivent être justifiés par la foi et vus par Dieu comme étant justes par leur foi en Christ. Abraham a été justifié par sa foi et ainsi tout le long de l'Écriture. Et il en a été ainsi pendant des siècles et des siècles, des prédicateurs chrétiens qui prêchaient dans la Bible ont prêché tout d'abord la justification par la foi et nous ajoutons ce terme uniquement, la justification par la foi uniquement. C'est le seul chemin pour être réconcilié avec Dieu et nous devons comprendre cela. Ceci a toujours été prêché et quand, pendant un temps dans l'histoire, c'était presque comme si ceci avait disparu, alors la réforme est venue et à nouveau, c'était le centre de l'Évangile, le besoin d'être justifié par la foi. Et depuis ce moment-là, toutes ces grandes déclarations de doctrine qui ont été écrites au XVIIe siècle par les presbytériens avec la confession de foi de Westminster, l'Église épiscopale avec les 39 articles, la confession baptiste, les indépendants ou la confession de foi de Savoie, et au XVIIIe siècle, les méthodistes avec leur confession, toutes les dénominations historiques, tous les chrétiens, s'ils avaient différentes méthodes de gouvernement dans l'Église qui différaient, ils étaient d'accord sur une chose, la justification par la foi uniquement. C'est le seul chemin pour être réconcilié avec Dieu. Si nous ne connaissons pas la doctrine de la justification par la foi, alors il n'y a pas d'espoir d'être réconcilié avec Dieu. Cette doctrine est présentée dans l'Écriture comme étant le seul chemin. Si nous ne connaissons pas la doctrine de la justification par la foi, nous ne nous comprenons pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre la nature humaine, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi les êtres humains sont tels qu'ils sont et qu'ils se comportent comme ils se comportent, et encore moins nous comprenons le chemin vers le ciel et la gloire éternelle et comment connaître Dieu, comment marcher avec lui. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dois dire que l'apôtre Paul utilise comme un raccourci ici, parce que sa déclaration n'est pas entièrement en accord avec sa déclaration ailleurs. Et pour nous aider, il raccourcit les choses. Parce que la règle, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Et par la grâce vous êtes sauvés par la foi », ce n'est pas strictement juste que de dire « étant donc justifié par la foi », parce que la foi n'a pas la puissance de mériter de la part de Dieu son approbation, sa faveur. La foi n'a pas la puissance, la capacité d'expier pour nos péchés et de nous rendre justes. C'est la grâce qui accomplit ceci, la faveur de Dieu qui est libre, la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Le salut libre de Dieu nous est donné. Et c'est ceci qui nous donne la réconciliation. Et je vais expliquer cela. Et ceci, c'est par la foi. La foi, c'est ce qui s'approprie quelque chose. La foi est souvent décrite comme étant la main qui saisit le salut de Dieu qui nous est donné librement. Ainsi, l'apôtre Paul, pour simplifier les choses, ne met pas de côté la grâce, mais il raccourcit cette déclaration ici. Et il rajoute la grâce plus tard. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par la foi, nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. » La grâce est la chose principale. La foi, c'est le moyen de s'approprier la grâce, mais la grâce, c'est la chose centrale, la faveur de Dieu qui nous est libre. Parlons de ceci, parce que ceci est essentiel que de comprendre ces choses quand nous cherchons à venir à Dieu dans cette manière-là. J'ai dit que le salut est par la grâce, par la foi, et ceci a toujours été le seul chemin. Oh, j'aimerais revenir au psaume 51 et vous allez voir ceci ici. Je prends un ou deux exemples avant de continuer. C'est un psaume très connu du roi David, son psaume de repentance. Le premier verset, « Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta miséricorde, selon la grandeur de tes compassions, efface mes transgressions. » Vous pouvez le voir ici, David vient devant Dieu. Il a péché terriblement. Il ne dit pas, « Ô Dieu, pardonne-moi ce péché et je vais t'offrir ceci et t'offrir cela et faire cela pour toi et accomplir de grandes choses pour toi. » Ou « Pardonne-moi ce péché parce que finalement j'ai vécu une bonne vie avant cela et j'ai réussi à faire différentes bonnes choses. » Voyez le fondement sur lequel il demande ce pardon. Il dit, et pitié de moi, fais-moi miséricorde. C'est quelque chose d'entièrement libre, quelque chose qui ne mérite pas la grâce de Dieu selon la grandeur de tes compassions, selon la bonté de Dieu. Fais grâce envers une créature qui ne mérite rien, une créature telle que moi. Selon la multitude de tes miséricordes, de tes compassions, « Efface mes transgressions. » Voyez, la Bible parle du pardon, de la réconciliation avec Dieu en étant sur le fondement de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu. Et nous allons rajouter quelque chose de plus dans un moment. Et dans ce psaume 51, c'est le même langage. Au verset 11, « Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Seigneur, je ne peux rien faire pour mériter ta faveur, ton pardon. J'ai besoin d'être pardonné librement et purifié. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Et tout le long du psaume, ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton esprit saint. alors que je mérite toutes ces choses. Et au verset 18, « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. L'holocauste ne t'est point agréable. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. » Chers amis, j'aimerais lire rapidement un autre psaume. C'est le psaume 85. Et je vais lire 2-3 versets dès le début. « Éternel, tu as été propice envers ta terre. Tu as ramené les captifs de Jacob. » Le psalmiste, on ne sait pas qui il est, il n'est pas nommé. Il repense à ces grandes délivrances que Dieu a données au peuple. Nous ne savons pas s'il se réfère à la délivrance bien plus tôt de l'Égypte ou plus tard de la délivrance de Babylone. Nous ne savons pas, ceci n'est pas si clair. Ou une autre délivrance. Mais il repense à ces délivrances du peuple. Et au verset 3, il dit ceci. « Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. » Tu as couvert tous leurs péchés. Tu as retiré tout ton courroux que nous méritions. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Et vous voyez ici que tout est libre. C'est le pardon qui n'est pas mérité. Un pardon libre, c'est le salut par la grâce. Tout le long de la Bible. Et nous nous approprions ceci par la foi. Et j'aimerais en arriver à un passage extraordinaire dans le psaume 85 au verset 11. Écoutez ces paroles glorieuses. La bonté et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont entrebaisées. Dieu, quand il pardonne, de notre point de vue humain, a un problème énorme. Parce que pour que Dieu puisse pardonner, ceci amène un problème même pour Dieu. Et ce problème est exprimé ici. Ces paroles sont si profondes. La bonté et la vérité se sont rencontrées. Si Dieu veut montrer sa miséricorde envers les pécheurs, alors comment est-ce qu'il peut montrer sa miséricorde sans renoncer à sa vérité? Sa vérité qui est sa justice. Nous sommes pécheurs, c'est là la vérité, et le péché doit être condamné, et Dieu doit condamner le péché, et il est Dieu. Et parce qu'il ne peut pas être injuste, il doit condamner le péché. Ainsi, comment il peut être à la fois miséricordieux et vrai? Vrai, parce que sa nature est juste et sainte et pure. Et cependant, le psalmiste dit « La bonté et la vérité se sont rencontrées dans le pardon. » Dieu a trouvé un moyen d'exprimer les deux à la fois, d'exprimer sa bonté, sa miséricorde et d'exprimer sa vérité. Le péché est mauvais. Il n'a rien à faire avec le péché. Il va condamner le péché hors de son univers moral. Et le psalmiste répète cette pensée pour être bien clair. La bonté et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont entrebaisées. Sa justice, sa sainteté qui resplendit et qui insiste sur le fait de condamner le péché doit être exprimée. Comment est-ce qu'il peut y avoir la paix entre le pécheur et Dieu, la réconciliation entre le pécheur et Dieu? Ainsi, vous voyez la justice de Dieu et sa miséricorde qui ne peuvent pas être exprimés en même temps envers un pécheur. Il ne peut pas être juste et juste envers lui-même et son caractère, son essence, et en même temps être miséricordieux. Ainsi, savez-vous que l'un des grands thèmes de la Bible, c'est comment Dieu a agi de manière à ce que tous ses attributs soient honorés et exercés. Il peut exercer son amour et en même temps sa justice. Quelle est l'explication ainsi? Comment est-ce que Dieu a pu faire cela? D'autres passages de l'Écriture nous le disent. Probablement, le premier livre qui a été écrit dans toute la Bible, tant que nous pouvons le dire, est le livre de Job. Ce n'est pas le premier dans l'ordre de nos Bibles, mais probablement le livre le plus vieux de tous les livres de la Bible. Et Job l'exprime ainsi, « Car je sais que mon Rédempteur vit. » Il appelle Dieu son Rédempteur, quelqu'un qu'il a racheté de l'esclavage, du malheur, quelqu'un qui a payé le prix pour lui, ce prix qu'il ne pouvait pas payer lui-même. Et là, dans le premier livre de la Bible qui a été écrit, il y a la réponse. Dieu a payé le prix pour notre péché, à notre place, pour qu'il puisse nous pardonner, de manière à ce qu'il puisse exprimer sa justice, sa sainteté, et en même temps, sa miséricorde et son amour en même temps. Comment est-ce qu'il a fait cela? Ceci était illustré dans tous les sacrifices de l'Ancien Testament quand Dieu a enseigné le peuple d'Israël avec une grande illustration pour qu'ils s'attendent à ce jour qui arrivera où le Messie viendra et que son sang sera versé pour expier les péchés de ses enfants. Ésaïe a prophétisé ceci dans Ésaïe 53. Beaucoup d'entre vous connaissent ces paroles, mais l'une des prophéties les plus extraordinaires dans toute la Bible, Ésaïe 53, et j'aimerais lire certains versets. Il est méprisé, délaissé des hommes. Ceci prophétise par rapport à Christ, comment il viendra. Christ était Dieu, la deuxième personne de la Trinité glorieuse, deuxième personne de la Trinité qui est venue dans ce monde, dans le temps. Il est venu. Et voici la prophétie. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Qu'est-ce qu'il a fait? Cependant, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, et nous, nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Oh, chers amis, c'est là la prophétie, et c'est là exactement ce que Christ a fait quand il est venu. Il a marché sur cette terre, il est né dans une famille pauvre, mais il était le Fils de Dieu. Il a œuvré, travaillé avec ses mains, et il a commencé son ministère sur cette terre. Ses miracles puissants de compassion, de guérison, sa prédication, il est venu pour que les gens se repentent, pour qu'ils connaissent la rémission des péchés, la réconciliation avec Dieu. Il est allé à la croix du calvaire, et là il a souffert, il est mort, et Dieu le Père a déversé sur lui toute la culpabilité, tout le péché de tous ceux qui seront amenés à se confier en lui, et il l'a condamné lui à leur place, il l'a condamné lui avec cette condamnation éternelle condensée en quelques heures. Et il a souffert cette torture physique, mais également cette torture, cette angoisse dans son âme. Il a expérimenté quelque chose que nous ne pouvons même pas décrire. Nous n'avons pas les paroles pour décrire cela. La séparation entre Dieu et l'homme que nous aurions dû endurer, expérimenter pour l'éternité. Et cette condamnation qui nous est due, il a tout souffert à notre place, il a expié notre péché, il a payé le prix, il a payé le prix pour notre salut, il est devenu notre Rédempteur, il nous a rachetés, il a payé pour nous, il nous a rachetés, il a payé le prix. Si nous sommes à lui, si nous lui appartenons, et c'est ainsi que Dieu a honoré sa miséricorde, il a trouvé un moyen d'exercer son amour si extraordinaire et incomparable envers des millions et des millions d'âmes humaines. Et en même temps, il honore également sa justice parfaite et entière et il condamne le péché. Il s'est condamné lui-même. Vous ne pouvez pas comprendre cela, réaliser ces choses, que Dieu prenne notre place, qu'il descende et qu'il fasse ceci pour nous. Nous qui l'avons ignoré, qui n'avions pas de temps pour lui, qui l'avons offensé, qui avons péché constamment contre lui, l'amour si immense de Christ. Et je reviens à la lettre de Paul aux Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi en Christ, en ce qu'il a fait, nous avons la paix avec Dieu. Qu'est-ce que vous pensez que cela signifie, la paix avec Dieu? La paix. Ce terme est traduit du grec, de ce verbe grec qui signifie rejoindre, réconcilier. Ce n'est pas la paix dans le sens de la tranquillité, mais c'est cette paix dans la réconciliation. C'est facile d'illustrer cela. C'est comme la paix après la guerre. Et c'est littéralement ce que c'est ici. On parle beaucoup de la Corée du Nord dans l'actualité. Est-ce que c'est trop d'espérer qu'il y ait un changement dans l'attitude? Qui peut dire? Nous ne pouvons pas savoir. Mais rappelez-vous de la Corée du Nord dans le passé. Personne n'est en guerre réellement avec la Corée du Nord, mais les relations sont très froides et tendues. Personne ne peut y aller, personne ne peut vivre là-bas. Il y a toutes sortes d'insultes qui sont lancées dans un sens, dans l'autre, de menaces. Et si tout ceci disparaissait, je ne suggère pas que ceci peut se faire, nous espérons, mais si tout ceci disparaissait et arrivait à une fin, qu'il y ait à nouveau cette amitié, cette interaction et peut-être les affaires et que les gens puissent aller d'un pays à l'autre, c'est là une illustration de ce que c'est que la paix avec Dieu, la fin de cette guerre froide, de cette hostilité, de cette absence de bénédiction. Et nous arrivons à cette amitié, cette réconciliation. Réconcilier avec Dieu, c'est là la paix avec Dieu. Nous le connaissons, nous l'aimons, nous marchons avec lui, nous l'étudions, nous le prions, nous le servons et il nous aide. Et il nous prend dans la gloire, dans le ciel, il nous amène jusqu'au ciel. Nous sommes des amis de Dieu et il nous aime. C'est là ce que signifie la paix avec Dieu. Nous sommes convertis à Dieu. Nous avons une toute nouvelle relation avec lui. Et nous avons eu la même chose avec l'URSS, la guerre froide et toutes les menaces de l'époque. Ou nous pourrions illustrer ceci différemment. Vous avez tous entendu parler de ces arrestations et les criminels qui sont extradés pour être renvoyés dans leur pays. Peut-être que quelqu'un qui est criminel va dans un endroit, dans un pays où il pense qu'il va pouvoir fuir et se cacher et que jamais il ne va être extradé. Mais ce pays peut-être va arrêter cette personne et le rendre à son pays. Il va devoir revenir pour être jugé. Et de même pour nous, chacun d'entre nous, nous devons rendre compte. Nous sommes des hommes et des femmes qui s'opposent à Dieu. Nous sommes des ennemis de Dieu et nous vivons pour nous-mêmes. Nous vivons pour ce monde uniquement. Nous ignorons Dieu, nous lui résistons. Et si nous continuons ainsi, le moment va venir à la fin de notre vie, tôt ou tard, où finalement, c'est comme cette main qui vient et qui nous dit, c'est le moment de revenir à Dieu et d'être jugé par lui, de rendre compte devant lui. Si vous n'avez jamais été réconcilié avec lui, si vous n'avez pas été pardonné, alors vous allez devoir rendre compte. Les gens constamment mettent en avant toutes sortes d'arguments pour résister à l'extradition. Mais un jour ou l'autre, ceci va leur arriver. Les gens vont faire également toutes sortes de choses pour ne pas mourir et pour retarder le jour de leur mort. Mais un jour, ceci va se passer et nous devrons faire face et rendre compte devant Dieu. C'est là la paix avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de rendre compte. Nous n'allons pas être jugés et condamnés. Quelqu'un qui est sous la faveur de Dieu, justifié par la foi, Dieu vous a déclaré juste parce que Christ a payé la condamnation pour votre péché à votre place et vous êtes pur et pardonné et purifié et entièrement pardonné. Et vous serez traité comme si vous aviez même mérité ces choses pour vous-même, par vous-même. C'est là la justification par la foi. Souvenez-vous, ceci, c'est par la grâce. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est appelé la grâce dans laquelle nous nous tenons. Quand j'étais jeune, que j'étais enfant, tout le monde, à l'âge de 10 ans ou plus tard, avait un examen qui s'appelait un examen 11+. Quand vous aviez 11 ans, vous alliez dans une école ou une autre, suivant les résultats. À Londres, un enfant sur quatre allait dans des bonnes écoles. À la campagne, c'était 1 sur 27. Il y avait peu de bonnes écoles. Et ceci était un examen important pour les enfants avec beaucoup de pression parentale. Souvent, et les enfants savaient que ceci allait déterminer leur avenir, simplement un examen. Ça a un peu changé de nos jours, mais il y a tant d'universités de nos jours, bien plus que dans le temps. Mais maintenant, ce qui est difficile, c'est d'entrer dans une bonne université. C'est une compétition et tout le monde doit travailler dur. C'est notre société, je ne la critique pas. Il doit y avoir une certaine compétition et nous devons mériter des choses, nous devons travailler dur. Il y a une compétition pour le travail également. Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours qu'il y a une centaine d'autres candidats pour le poste auquel il postule. Et il faut travailler dur. Mais la grâce, le salut est libre. Vous ne pouvez rien faire pour mériter le salut. Vous ne pouvez pas apprendre pour avoir la faveur de Dieu. Vous ne pouvez pas faire de bonnes œuvres, même si vous améliorez votre vie, votre conduite, vous ne pouvez jamais faire suffisamment pour Dieu, parce que nous sommes si loin de ces critères moraux si élevés, parce que plus nous accomplissons, plus nous sommes orgueilleux, nous ne pouvons rien faire par rapport à notre péché. Non seulement nous commettons des péchés, mais nous sommes pécheurs de notre nature même, ceci est profondément en nous. Mais le salut est libre, nous ne pouvons pas le mériter. Certaines personnes sont en souci par rapport à cela, ils disent « Oh, si le salut est libre, alors je peux vivre comme je le veux ». Non, vous ne pouvez pas faire cela, parce que si vous êtes réellement sauvé, Dieu change votre cœur et vous haïssez votre péché et vous voulez lui plaire. Ainsi, nous ne pouvons pas donner cette objection. Le salut est libre. Et même si vous essayez de mériter le salut dans une certaine mesure, vous gâchez tout parce que Dieu ne peut pas vous sauver ainsi. Si vous pensez « Oh, je dois recevoir le salut à 50%, mais moi je ne suis pas si mauvais que ça, je fais de bonnes choses, je peux me confier en moi-même en 50%. » Non, vous devez réaliser que vous avez besoin de Christ à 100%. Vous avez besoin de la faveur de Dieu, de la bonté de Dieu, de sa grâce entièrement. Vous devez croire qu'il a porté tous vos péchés et vous confier entièrement en lui seul. Ce doit être un salut libre. Ceci est extraordinaire. Si vous réussissez vos examens, vous allez à l'université et il y a plus de travail. Et vous avez votre diplôme, c'est bien, mais ensuite il y a plus de travail. Ensuite, vous avez un travail et c'est une compétition d'avoir un poste. Et une chose après l'autre, vous devez accomplir. Et à la fin, vous devez avoir un salaire pour pouvoir vivre et survivre. Mais le salut qui est libre, c'est la vie éternelle. Et marcher avec Dieu maintenant et comprendre les choses les plus profondes, les plus grandes, et l'expérimenter, le connaître, c'est bien au-delà de tout ce que nous pouvons accomplir sur cette terre. Et cependant, c'est libre et gratuit. Parce que ceci doit être ainsi, c'est la justification, la doctrine de la justification par la foi seule. Et j'aimerais conclure, et j'aimerais vous dire, pour conclure, ce que la foi inclut. C'est important de savoir ce que la foi inclut. Savez-vous ce qu'elle inclut? D'une manière évidente, tout d'abord, cela signifie croire dans l'enseignement de l'Écriture que la mort de Christ, c'est une expiation pour nous et c'est le seul chemin pour être sauvé. Et croyez en lui de tout votre cœur comme étant le seul chemin. Il n'est pas bon d'essayer autre chose comme les Juifs de l'époque qui pensaient qu'en gardant méticuleusement les cérémonies juives, alors ils allaient mériter une place dans la gloire céleste. C'était une erreur parce que ce n'est pas ce que le Seigneur leur a enseigné. Il n'est pas bon de penser que de faire des choses complexes, des rites, ceci va vous aider. Non, uniquement la foi en Christ. Mais la foi inclut la repentance. La foi biblique implique la repentance. D'être profondément dans le chagrin par rapport à mon péché. Je sais, je comprends ce que je suis et mon péché, et je viens devant Dieu dans la repentance, dans le deuil. C'est la seule manière de s'approcher de Dieu, d'être réellement dans le regret, dans la repentance. Et la troisième partie de la foi, c'est de se consacrer à Christ, de lui donner votre vie, d'accepter sa domination et de vivre pour lui, de l'aimer. C'est se confier en lui, c'est la repentance et c'est se donner à lui. Ainsi, nous pouvons comprendre. Étant donc justifiés, déclarés justes par Dieu, par notre foi en Christ, notre repentance et notre consécration à lui, nous avons la paix, cette interaction, cette réconciliation, cette communion, la vie nouvelle avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez comprendre la justification par la foi seule. Il n'y a aucun autre chemin, aucun autre moyen d'aller à Dieu, mais c'est libre, gratuit et puissant. Ceci nous amène à connaître Christ. C'est là l'enseignement et c'est là ce verset clé, le cœur même de l'Évangile. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, aide-nous chacun, nous te prions, que ces choses soient claires dans notre esprit. Seigneur, œuvre dans les cœurs, nous te prions, pour que nous puissions réaliser notre besoin de toi et te désirer et venir à toi et nous repentir, et nous confier en toi et nous consacrer à toi. Seigneur, viens et aide-nous à présent pour que nous ne soyons pas perdus, pour que jamais nous devons nous tenir devant toi dans la crainte, dans le jugement. Seigneur, viens et sauve les âmes. Nous te demandons ces choses dans le nom de notre Sauveur, pour sa gloire. Amen.